En décembre dernier, l'annonce de la vente du fleuron des entreprises québécoises de l'intelligence artificielle Element AI à des intérêts étrangers a créé tout un émoi. Au Québec, où sont dépensés chaque année plusieurs milliards en recherche universitaire, Element AI, dont la raison d'être repose en grande partie sur les fruits de la recherche, a bénéficié de plusieurs centaines de millions de dollars de fonds publics pour sa capitalisation et son développement. Il faut dire que les deux paliers de gouvernement, fédéral et provincial, n'hésitent pas depuis plusieurs années à délier les cordons de la bourse pour développer un écosystème de l'IA qui puisse attirer, notamment à Montréal, les grands joueurs de l'industrie. Le gouvernement du Québec a injecté plus de 500 millions de dollars dans la cause, un montant qui grimpe à près de 900 millions de dollars en incluant le palier fédéral. À cela s'ajoutent les investissements indirects dans les infrastructures numériques, les dépenses fiscales relatives au crédit d'impôt à la recherche et développement et à l'innovation, sans compter les investissements en capital de risque. Bref, à l'heure de faire les comptes, la question de la stratégie des dépenses gouvernementales dans l'IA est désormais posée par plusieurs observateurs. Alors que faut-il en penser? L'émotion de l'annonce fracassante de la vente d'Element AI à la licorne californienne ServiceNow a-t-elle suscité des doutes excessifs, des conclusions peut-être un peu trop rapides ou bien au contraire, a-t-elle mis en lumière un dysfonctionnement structurel dans la méthode et dans la stratégie de financement de l'IA au Québec? Financer l'IA, ça sert à quoi? Nous avons fait appel à deux experts pour nous aider à y voir un peu plus clair.
À quoi ça sert de financer l'IA au Québec? Un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Regnault.
Deux experts pour nous accompagner donc. Tout d'abord, honneur aux dames, Nathalie de Marcellis-Varin. Vous êtes présidente directrice générale du CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Vous êtes également professeure titulaire à Polytechnique Générale et puis vous êtes membre de l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux sur l'IA et le numérique. Et puis coup de chapeau hein, au CIRANO qui vient tout juste de publier la 9e édition du Québec économique, un rapport très complet sur la situation actuelle et puis qui contient un chapitre entier dédié au rôle de l'intelligence artificielle dans le développement économique de la province. Des données fort éclairantes. Bonjour Nathalie.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, en virtuel, on le précise, Luc Sirois. Allez, faut-il encore le présenter, Luc? Eh ben oui, puisque depuis près d'un mois, il est devenu l'innovateur en chef du Québec. Et vous dirigez, Luc Sirois, le Conseil de l'innovation du Québec, tout nouvellement créé. Vous êtes également, depuis août dernier, le conseiller stratégique du ministre québécois de l'économie et de l'innovation pour piloter, eh bien, le nouveau modèle de valorisation de la recherche publique. Et on va en parler de valorisation. Bonjour Luc.
Bonjour Philippe, bonjour Nathalie.
Alors pour commencer, je vous propose d'écouter ceci.
Rentabiliser une idée ou un modèle d'affaires, c'est une chose. Savoir c'est quoi le modèle d'affaires, c'en est une autre. Je comprends le gouvernement et je suis très d'accord avec le gouvernement de ne pas racheter cette entreprise-là ou ne pas avoir essayé de sauver cette entreprise-là parce que racheter les pots cassés d'une entreprise dans laquelle, je le rappelle, ils ont levé 348 millions de dollars. Pour une entreprise qu'on ne savait pas, encore une fois, je le répète, là, c'est juste, je veux que le monde réalise que, tu sais, moi, je regarde après, à côté, il y a plein de jeunes pousses, il y a plein de super belles entreprises dans l'intelligence artificielle à Montréal qui reçoivent des peanuts et qui font réellement des grandes avancées et des développements. Et là, tout d'un coup, il y a une entreprise qui arrive comme un don de Dieu pour le Québec et finalement, ben, elle faisait rien.
Extrait de l'émission CA de nos confrères d'ici RDI, diffusé le 2 décembre dernier à l'occasion donc de la vente d'Element AI à la firme américaine ServiceNow. Et on entendait dans cet extrait, ben, on peut le dire, le coup de gueule de Nicolas Duvernois, célèbre entrepreneur québécois, mobilisé notamment dans le développement de jeunes pousses entrepreneuriales avec son mouvement Adopt Inc. Alors ce qu'il reproche dans cet extrait, c'est d'avoir mis beaucoup d'argent public depuis des années dans une entreprise dont il affirme, je cite, qu'elle ne faisait rien, mais aussi finalement d'avoir ainsi payé une entreprise québécoise qui passe sous intérêt étranger et pénalisé par là même toutes les startups québécoises qui n'ont pas bénéficié d'autant de largesse qu'Element AI et qui pourtant développent, vendent et croissent au Québec. Est-ce que Luc Sirois, monsieur l'innovateur en chef, on en met trop dans les poches de ces licornes là et pas assez dans les jeunes pousses de l'IA?
Vous savez, on investit dans des centaines d'entreprises en IA au Québec. Le dernier appel à projet lui-même, on va avoir la chance d'en parler un peu, a suscité des douzaines et des douzaines d'entreprises qui vont recevoir du financement. C'est tout un écosystème d'entreprises. Donc, moi, je pense que non, on n'en met pas assez. Je pense qu'on devrait continuer. Si on veut se tailler une place parmi les grands, il faut être capable de miser sur plusieurs joueurs. Il y en a de très nombreux. Celui de Elementia, c'est un cas malheureux. On est triste de les voir partir comme ça. On a encore plein de bons joueurs qui sont sur la glace, des Lighthouse, des Alaya Care, Coveo. Moi, je connais bien les gens de Dimeca, les gens de Herosoft, Dialogue. On a plusieurs
Il y en a. Effectivement, il y en a. Et c'est bon de le rappeler parce qu'effectivement, ce modèle de la licorne là qu'on a mis un peu, on a tapé vraiment sur ce cas-là. Ce modèle de la licorne à tout prix, finalement, ce que vous dites, c'est une forme de soutien, mais c'est pas forcément celle qu'il faut privilégier à tout prix. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent émerger. Est-ce que justement ça, ce modèle de la licorne, c'est pas un peu dommageable pour le développement de l'IA au Québec, Nathalie de Marcellis-Varin? Parce que vous partagez finalement le point de vue de Luc.
Ben, tout à fait. Et je pense que ce qui est important, en fait, c'est d'investir dans des entreprises qui vont nous permettre d'arriver à des créations de richesse, de la valeur pour le Québec. Et donc, on peut pas dire, tu sais, investir à tout prix dans les licornes, c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est quelles sont les entreprises qui ont un potentiel, justement, de forte croissance. Et Luc en donnait quelques exemples. Et je pense que c'est important. Et surtout dans le domaine de l'IA, ce qui est important aussi, c'est que c'est une technologie qui est transversale. Donc, on peut pas dire, on va financer l'IA. Il faut qu'on regarde, en fait, dans quel secteur en particulier, on a des forces. Tu parlais d'Alaya Care, d'Enerkem, il y en a plusieurs comme ça, Coveo, qui sont des entreprises dans lesquelles, pour leur secteur en particulier, on voit une forte croissance, un potentiel. Et donc, je pense qu'il faut avoir une stratégie d'investissement qui est diversifiée.
Quand on voit combien les fonds publics sont mis à contribution, hein, on l'évoquait, c'est des centaines de millions de dollars, est-ce qu'on ne devrait pas envisager d'imposer des conditions ou des garanties plus fortes que celles qui existent déjà, advenant une offre de fusion ou d'acquisition par une société hors Québec, comme on l'a vécu avec Elementia et Luxirois?
Vous voyez, c'est drôle comme question, parce que dans tous les contrats de financement de l'État, les conditions sont très strictes et très rigides. Ça cause en fait beaucoup de soucis aux entreprises qui souvent vont refuser l'aide de l'État à cause de ces obligations-là de reddition de compte et en fait d'obligation envers la société québécoise. Moi, je pense qu'il faut quand même aller plus loin, Philippe, et aller plus loin sur l'esprit de dire, ben, si on est pour avoir des investissements étrangers, d'avoir de la création de richesse ici, il faut trouver une façon de créer des partenariats avec des acteurs locaux pour que la création de propriété intellectuelle, la création de richesse puisse être aussi ancrée dans des organisations ici au Québec et qu'ensemble, on arrive à développer le savoir et les inventions de demain, mais que ça soit gagnant-gagnant.
Développer des entreprises rentables dans le domaine de l'IA au Québec, c'est avant tout préserver l'actif de ces entreprises. L'actif principal, c'est quoi, Nathalie de Marcellis-Varin? C'est le fruit de la recherche universitaire? C'est à ça que doit servir le financement, justement, de la recherche?
Ben, quand on parle en fait d'actifs de l'entreprise, ce qu'il faut regarder, il y a deux éléments importants, c'est la propriété intellectuelle, donc en fait c'est justement cette connaissance et cette richesse en fait de connaissances au niveau de l'entreprise, et ce sont finalement les acteurs clés, les talents de cette entreprise-là. Donc finalement, quand on regarde de quoi est formée cette propriété intellectuelle dans ces entreprises de l'IA, il y a évidemment une partie de la recherche universitaire, c'est indéniable, de façon directe, on transforme des éléments de la recherche universitaire qui vont être transformés en produits, mais il y a aussi évidemment les talents qu'on a formés dans les universités qui vont être finalement ces fameux talents de l'entreprise. Je discutais récemment avec un de nos fellows invités au Cyrano, Richard Bruno, puis on parlait justement de cette pays, puis on le sait, dans l'IA, c'est difficile de l'évaluer directement parce que finalement les algorithmes, les équations, on peut pas les breveter. Donc il y a une façon évidemment de mesurer cet actif-là, et clairement en fait, il faut réussir à faire que notre continuum recherche, innovation, et puis comme dit notre scientifique en chef, réussite, soit vraiment important. Et je pense que finalement, avec ton nouveau rôle, Luc, c'est un peu ça que tu vas faire, c'est nous aider à s'assurer que finalement, il y a ce socle de la recherche universitaire, mais qu'il y a aussi évidemment cette transformation, cette application, parce qu'on sait, c'est difficile, hein, la recherche universitaire, de l'appliquer directement, donc de voir qu'on ait cette recherche appliquée dans les entreprises qui permettent de transformer finalement en produits, en valeur.
C'est le fameux maillage dont vous parliez, hein, Luc, c'est ça, hein.
C'est c'est ce transfert, cette valorisation entre le milieu de la recherche universitaire puis l'industrie et la société québécoise. Ça, c'est un des aspects. Le maillage auquel je fais référence, c'est peut-être le maillage des partenariats entre entreprises, donc et entreprises même à l'international, ouais, entreprises ici qui sont locales.
Une récente enquête mondiale de McKinsey, de la firme McKinsey, semble démontrer que la COVID-19 a clairement accéléré le virage numérique des entreprises. Mais selon une autre étude qui a été réalisée, celle-là par KPMG, le Canada et en particulier le Québec traîneraient de la patte en matière de productivité, tiens donc, c'est pas nouveau, mais tarderaient aussi à accélérer suffisamment le virage numérique. Est-ce que vous êtes d'accord, Luc Sirois, avec ce constat dans une province, le Québec, où on se fait fort de dire qu'on est quand même les champions de la recherche, notamment en IA?
Ben, la question de la transformation numérique, c'est malheureux, mais en effet, on est un peu à la remorque et la COVID a eu un impact incroyable. Les entreprises qui avaient investi dans leur transformation numérique s'en tirent mieux. Celles qui sont prises avec les défis du confinement, de l'économie au ralenti, de la transformation, justement, emboîtent le pas. Donc, espérons que c'est un rattrapage qu'on fera rapidement dès la sortie.
Mais souvent, c'est le manque de financement qui trône en tête de liste des besoins des entreprises. Or, la crise actuelle a eu pour effet plutôt paradoxal et positif, de faciliter l'obtention de capitaux, comme en témoigne justement le mois dernier l'annonce d'une enveloppe de plus de 25 millions pour des projets en IA. Ce genre d'appel de projet, est-ce qu'il est suffisant pour dynamiser le développement de l'innovation au sein des entreprises québécoises? Et surtout, c'est quoi qu'on vise avec ces programmes? Plus de productivité, Luc?
En fait, on vise ce programme auquel tu fais référence vise la création de nouveaux produits, services, solutions. Donc, des innovations faites souvent justement en partenariat entre entreprises avec le secteur académique. Il y a aussi eu l'annonce d'un programme de plus de 800 millions en transformation pour la productivité, l'innovation pour la productivité d'Investissement Québec. Plusieurs centaines de millions, donc axés sur cet aspect-là que tu amènes, qui est celui de la productivité, de l'efficience, de l'intégration des nouvelles technologies. Et ça, c'est un domaine où on a le rattrapage à faire.
Et ces programmes, ils doivent en priorité appuyer le transfert de connaissances qu'on évoquait tout à l'heure dans les entreprises, Nathalie de Marcellis-Varin?
Ben, en fait, je pense que c'est ça qui est important. Ce que je le disais, c'est dans notre continuum, il faut s'assurer que la recherche, en fait, qu'on valorise la recherche universitaire, la recherche publique, même la recherche qui se fait dans les PME, pour pouvoir justement aller vers des innovations, que ce soit de produits ou de services. Et donc, c'est vraiment important, évidemment, de voir comment on peut mettre en place des facteurs de succès pour assurer ce transfert de connaissances.
Si tu peux me permettre, Philippe, on fait face à deux types d'innovations, puis on va entre l'une et l'autre. Le transfert de la découverte du savoir scientifique vers l'industrie, oui, c'est absolument impératif, Nathalie l'a souligné, et ça se fait par le transfert en création de nouveaux produits, services, solutions, procédés, souvent vers des entreprises innovantes elles-mêmes ou des entreprises qui pourront créer ces produits-là. Ensuite, il y a une transformation en termes de transformation numérique, productivité, augmentation de sa capacité de produire. Et ça, c'est un autre type d'innovation où les entreprises travaillent avec des fournisseurs, espérons des fournisseurs québécois, qui eux auront intégré le savoir de la science, la technologie développée dans les académies et la recherche publique.
C'était bon de le préciser. Et puis, Luc, aller chercher du financement pour intégrer de l'IA dans son entreprise, ça prend de l'expertise. Et c'est là que des accélérateurs de croissance, comme Prompt d'ailleurs, dont vous êtes le directeur général sortant, entrent en jeu. Les fameux RSRI, les MedTech, les CRIAC, les Prima, tous ces regroupements sectoriels de recherche industrielle au Québec, ils aident les entreprises justement à formaliser le bon partenariat, à soumettre une demande de financement qui réponde aux critères des fameux programmes dont on a parlé. Une entreprise seule, elle peut demander son financement en IA ou c'est trop compliqué, c'est trop utopique, Luc?
Alors, une petite minute de silence sur la réflexion. Vous savez, les dirigeants, dirigeantes d'entreprises, elles ont un objectif, propulser leur entreprise, réaliser les produits et services, faire les ventes et croître.
Être rentable, voilà.
être rentable. Et c'est sûr que si le processus pour obtenir les subventions, le financement est trop complexe, ben là, il y a une décision que les dirigeants-dirigeantes vont prendre. Mais un dirigeant-dirigeant de performant est le meilleur personne pour aller chercher le financement. On voit, pendant la COVID, c'est étonnant de voir comment les entrepreneurs et entrepreneurs, eux, ont été en fait hyper dynamiques, hyper actifs. On pensait que ça allait ralentir, mais dans les faits, ils ont levé plus de capitaux que jamais par les outils virtuels. Ils ont aussi développé des programmes d'innovation, investi dans l'innovation, plus qu'on ne le soupçonnait. Quand on les regarde chez Prompt, on s'attendait à ce que on fasse face à un ralentissement des projets. Au contraire, les entreprises on se sont dit, bon ben voilà, on est un peu en repli. Nos ingénieurs, scientifiques, techniciens, techniciennes sont disponibles. Ils mettent les bouchées doubles. Et eux sont capables d'aller chercher le financement dont ils ont besoin. Et c'est certain que des intermédiaires comme Prompt, comme les RSRI et d'autres sont habilités à les aider à trouver, en fait, pas tant le financement que les bons partenaires, les bons chercheurs, les bons étudiants doctorants qui pourront les aider à développer des solutions uniques au monde.
Mais si je vous pose la question, Lux, parce que donc on parlait des 24 millions de dollars qui ont été accordés aux entreprises québécoises au terme de deux appels de projets lancés donc en 2019-2020 par le gouvernement. Sur ces 24 millions de dollars, il y a seulement 572 000 dollars qui ont été versés en aide directe aux startups qui étaient accompagnées par un incubateur. Le reste du financement, il a été versé au regroupement d'entreprises pour des initiatives qui étaient menées justement avec des centres de recherche et des universités. Est-ce qu'on veut promouvoir justement le travail qui est fait avec ces intermédiaires plutôt que de verser directement aux entreprises, parce qu'on entend bien effectivement que les entrepreneurs ont beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de faire croître leur entreprise, mais est-ce qu'on souhaite au niveau notamment des autorités gouvernementales que ça se fasse avec ces fameux intermédiaires dont on parlait?
Ben en fait, je pense que le désir des autorités publiques, c'est d'assurer la croissance, la création, la croissance et le succès des entreprises. Les intermédiaires sont là comme des moyens d'arriver à mieux jumeler les acteurs pertinents puis d'amener le financement à bon escient. Il y a des programmes Startup Québec, il y a le support de tous les... pas seulement le support des accélérateurs incubateurs, mais aussi le support direct des fonds de capitaux de risque. Oui, le capital de risque, où là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de déploiements de capitaux qui sont mieux que de la subvention, souvent. Hein, ça propulse les entreprises. Puis, il y a peut-être aussi un nouveau secteur qui devrait être développé, c'est celui des achats publics, où on pourra permettre aux entreprises locales ici de trouver leur premier marché, leur premier débouché ici au Québec, au Canada.
On va en parler, ça, Luc. C'est effectivement un point important. On parle des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises qui sont quand même des vecteurs d'accompagnement essentiels. On le voit pour les startups en IA. Leur rôle est primordial pour la création, le développement des entreprises. Est-ce qu'on devrait, Nathalie, leur accorder plus de place, voire plus de leviers d'intervention financière pour accompagner justement la croissance des entreprises en IA?
Ben, je pense que le mot accompagnement est le plus important, en fait. Ouais. Ça fait partie des facteurs de succès. Et je pense que si on doit financer, c'est peut-être pas le financement dans l'entreprise, mais c'est le financement dans l'accompagnement et le bon accompagnement. C'est-à-dire, justement, des entrepreneurs qui peuvent leur permettre, en fait, de les aider dans leur objectif, dans le plan d'affaires, dans les différentes valeurs. Et encore une fois, ce qui est important dans ce contexte-là, puis Luc le disait, c'est le secteur dans lequel on se place. Parce que l'IA, c'est très vaste. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des indicateurs qui sont peut-être trop larges ou trop génériques. Ça va être important, peut-être, de vouloir avoir des accompagnateurs qui sont un peu spécifiques, par exemple dans la santé ou dans certains autres secteurs dans lesquels on a vraiment des forces au Québec.
C'est le facteur qui fait le plus de différence. Les entrepreneurs d'expérience qui accompagnent les plus juniors dans l'écosystème et qui partagent leur apprentissage, ça fait une différence extraordinaire. Et ça coûte pas très cher.
Tout à fait.
Et puis créer du maillage entre les entreprises de technologie numérique, les entreprises traditionnelles, c'est un peu le mantra des autorités gouvernementales, puis c'est aussi une réalité. Et là, ça nous amène sur un terrain, disons-le, un peu délicat, puisque ça pose la question du tropisme du Grand Montréal en intelligence artificielle. Montréal concentre, Montréal attire. Les entreprises y ont accès plus facilement aux innovations en IA, mais en région, il y a du talent, il y a un tissu industriel en pleine évolution technologique, il y a des centres de recherche universitaires très actifs. Est-ce qu'on doit continuer à financer en priorité l'écosystème du Grand Montréal pour que ça ruisselle ensuite sur les régions? C'est ça la stratégie à suivre, Nathalie? Puis après, peut-être Luc?
Ben, je pense que ce qui est important, vous l'avez dit, c'est-à-dire là, on a des entreprises traditionnelles, puis comme on en parlait, qui doivent se transformer. Et l'objectif, c'est vraiment une transformation. On doit aller chercher ce potentiel de l'IA et du numérique actuellement. Mais moi, j'irai pas, en fait, avec une distinction Montréal-région, parce que ce qui est important de voir, c'est souvent, en fait, le facteur du succès, ça va être la masse critique. T'sais, on en a parlé, ce continuum. Il y a des universités, il y a des PME. C'est sûr que Montréal concentre beaucoup de PME, beaucoup dans le contexte, dans le domaine de l'IA, notamment beaucoup de start-up et évidemment des grandes entreprises. Donc, ce qui va être important de regarder, c'est peut-être se dire, OK, Montréal sera toujours Montréal pour certains aspects, mais peut-être qu'on peut essayer de voir quels sont les, où on va pouvoir avoir nos masses critiques. Tu sais, on a parlé de Rimouski, sur le développement, je sais pas, de l'industrie.
Donc, avec des pôles, on parle bien de pôles, c'est ça, Nathalie.
Exactement. Ouais. Et parce qu'on veut cette masse critique-là, on veut des endroits où on va se retrouver avec différents secteurs. Et je pense que c'est un petit peu l'esprit des zones d'innovation qui sont en train d'être mises en place et qu'on veut à la fois avoir, évidemment, des zones universitaires, mais aussi des entreprises, des PME. Cette masse critique. Donc, il faut qu'on trouve où sont nos succès ou nos forces, évidemment, dans les régions. Puis, on le voit dans les pâtes et papiers, dans les mines. On a des régions qui s'identifient, évidemment, par certaines de leurs ressources et qui vont être importantes à développer dans ce contexte-là. Mais c'est sûr qu'après, Montréal peut déverser, comme vous dites, mais c'est plutôt un avantage comparatif. C'est-à-dire, c'est plutôt une collaboration. Puis, dans le domaine de l'IA, tout peut se faire à distance. Il y a des choses qui peuvent s'aider. Donc, la localisation n'est pas toujours la seule chose à regarder, même si c'est important.
Créer la dynamique positive. Luc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce modèle, justement, de la masse critique? On parle des fameuses zones d'innovation.
Mais... On est tellement... La masse critique est essentielle. Et au Québec, on est... Au Canada, on est petit. Au Québec, on est très petit. Donc, dans ce cas-ci, l'union fait la force et tous les chercheurs sont appelés à contribuer à notre masse critique en IA, souvent par des spécialités. Donc, il y a eu, en fait, des appels à propositions et du financement octroyé à la grandeur du Québec pour financer des centres de recherche qui vont se spécialiser dans certains domaines de l'IA, à Sherbrooke, relié, par exemple, à l'intelligence artificielle embarquée sur du matériel, sur les puces, l'idée à Québec contribue également à l'Université de Montréal dans son campus de Saint-Hyacinthe relié à la médecine vétérinaire. Donc, Trois-Rivières également qui contribue en cybersécurité à l'UQO avec l'INRS à Gatineau. Il faut vraiment faire appel à tous nos joueurs pour être capable d'augmenter au maximum notre masse critique.
L'effet de synergie. Je vous propose maintenant d'écouter ceci.
L'approche dans le portefeuille reste axée sur trois piliers. D'une part, c'est la technologie. Donc, on veut vraiment s'assurer que les sociétés qui intègrent le portefeuille ont une vraie capacité technologique autour de l'intelligence artificielle. Vient ensuite l'aspect financier, vérifier que la société a une bonne santé financière et aussi la valorisation.
À quoi ça sert de financer l'IA au Québec? Un balado C'est plus clair, proposé par la rédaction de C'est Science IA et animé par Philippe Regnault.
On vient d'entendre un extrait de l'émission Bien prévoir, qui est diffusée en France sur le canal Décideur TV. C'était le 25 décembre 2019. Une chaîne qui est dédiée aux investisseurs. Et on a entendu dans l'extrait Rolando Grandi, c'est un gérant de portefeuille chez le fonds financier de l'Échiquier. Alors, c'est intéressant d'entendre les investisseurs privés s'exprimer sur l'IA. Parce que lui, notamment, Monsieur Grandi, il nous dit, pour investir dans une entreprise en IA, on a trois critères. La solution technologique, la santé financière et la valorisation. Luc Sirois, si on s'entend pour dire qu'on supporte admirablement bien au Québec le développement technologique, est-ce que c'est aussi le cas pour les deux autres, la santé financière et la valorisation?
Enfin, il faut préciser que la valorisation dans un contexte d'analyse de portefeuille, c'est le prix de l'entreprise, le prix de l'action. Donc, en fait, peut-être au Québec, je pense qu'on a un terreau fertile d'entreprises dans lesquelles investir avec des valorisations qui sont peut-être un peu plus basses. Une grande, en termes de santé financière, on a accès maintenant. Vous savez, il y a 20 ans, 25 ans, au début de, on était un peu apprenti sorcier dans le secteur du capital de risque. Maintenant, quand on regarde la chaîne dans son entièreté, là, du pré-démarrage jusqu'au support de, justement, des scale-up et des entreprises en croissance, puis maintenant avec Investissement Québec, qui est un bras financier d'intervention plus grand, on a beaucoup plus accès à du capital qu'on l'a jamais eu. Donc, la santé financière des entreprises pré-marché public, là, elle est bien meilleure qu'elle l'a jamais été. Je pense que la question maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on a le talent? Deuxième question, c'est est-ce que l'entreprise s'adresse à une problématique, à un problème? Est-ce qu'elle résout un problème dans un secteur très pertinent pour lequel ça va faire une différence? Et d'abord et avant tout, je pense que c'est l'attitude du guerrier, du conquérant, de la conquérante, d'avoir cet esprit dès le départ que une entreprise qui est créée ici, elle doit par définition être orienté vers les marchés internationaux. Notre marché local, c'est un creuset pour l'expérimentation, puis apprendre et se développer, mais le marché, à terme, c'est le monde.
D'ailleurs, si on parle du monde, on se situe pas si mal d'ailleurs pour intéresser les investisseurs privés, notamment étrangers, puisqu'une étude menée en 2019 par FDI Benchmark du Financial Times, qui mesure la compétitivité d'une vingtaine de villes d'Amérique du Nord, classe Montréal au premier rang pour les projets d'investissement en intelligence artificielle. Ça, c'était donc en 2019. Est-ce que c'est toujours le cas en 2021, Nathalie? Est-ce que vous croyez que cette attraction va se maintenir au cours des prochaines années?
Alors, mais c'est toujours très bien d'avoir des classements où, en fait, on peut mettre en avant, finalement, notre ville ou notre région ou notre pays. Mais ce qu'il faut regarder, c'est comment ils mesurent, en fait. Parce que c'est pas évident, évidemment, de mesurer la compétitivité par rapport à ça. Par contre, ce qu'on regarde, c'est qu'eux, ils regardent le dynamisme de l'écosystème, ils regardent la disponibilité, la qualité de la main-d'œuvre, ils regardent les coûts d'exploitation annuels. Alors, c'est sûr que, à Montréal, notamment, par exemple, dans les coûts d'exploitation, on va dire la valeur de l'électricité est très basse, donc c'est un facteur d'attirer. Mais c'est aussi tout ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre qui sont bas. Et donc, moi, ce que je dirais, en fait, si on veut garder cette position, cette attraction, ce qu'on veut, c'est pas niveler par le bas, mais c'est monter en haut. C'est-à-dire, c'est attirons les meilleurs talents, gardons nos meilleurs talents, faisons en sorte que nos salaires augmentent, mais qu'on attire les investisseurs, parce que justement, c'est ici qu'ils veulent venir, en fait, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour les talents, pour les possibilités d'investissement. Donc, moi, je pense qu'ils regardent le retour sur investissement, ils vont regarder ces éléments-là, mais je souhaite vraiment qu'on reste, évidemment, premier dans ce classement, mais pour les bonnes raisons. Donc, mettons en place les facteurs de succès qui vont attirer les meilleurs talents et garder nos talents qu'on forme aujourd'hui dans nos universités. Et parfois, on se désole de les voir partir ailleurs.
C'est un peu l'enjeu, siphonnage des talents.
Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, l'élément salaire est important, comme d'autres éléments, évidemment. Il y a la qualité de vie. Évidemment, on adore Montréal, ou le Québec en général, pour la qualité de vie, les éléments comme ça. Mais je pense qu'il faut aussi se dire les vraies choses. Tu sais, on veut qu'on vienne, qu'on attire, en fait, ces investissements au Québec parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on a les meilleurs talents, parce qu'on attire les meilleurs talents aussi. Donc, ça, c'est très important pour moi.
Il y a une donnée intéressante qui nous vient d'Ange Québec qui est à propos des talents, où on voit que souvent les entreprises, les entreprises sont créées après que les experts aient passé 10, 12 ans dans des entreprises établies. Donc, il y a comme une deuxième vague, là, mais dans ce cas-ci positive, là, d'essaimage d'entreprises qui vient de l'expérience. Donc, la longévité d'un écosystème engendre des nouvelles entreprises qui ont en fait, dans la deuxième vague, peut-être encore plus de compétences. Et le talent se recycle comme ça et se forme au travers des expériences, des investissements du passé.
Alors, on voit que le terrain, il est très favorable et on arrive quasiment au terme de cette émission, mais on va terminer sur cette note positive. Le fait qu'on a un terrain, on va dire, fertile, il y a du financement public, il y a une fiscalité qui est attrayante pour la R&D, il y a un intérêt des investisseurs privés, sans nous dire que c'est pas encore totalement satisfaisant au niveau de la commercialisation, mais on n'est pas loin. Il y a environ un an, en février 2020, tout juste, le groupe de travail sur la commercialisation de l'IA au Canada publiait un rapport qui émettait notamment des recommandations à ce qui a trait à l'amélioration de l'environnement juridique, réglementaire pour la commercialisation de l'IA. Entre autres, je vous le donne, les trois, exploiter le réseau canadien d'établissements d'IA, comme Mila, comme Vector, faciliter une réglementation agile, accroître l'accès aux données. À vos yeux, est-ce qu'on a tenu compte suffisamment de ces recommandations et est-ce qu'elles sont toujours aussi pertinentes pour améliorer la croissance pérenne de nos entreprises technologiques? Luxiroy pour commencer, puis peut-être Nathalie pour terminer.
Certain qu'avec la crise auquel on fait face, là, il y a eu un peu de retard, puis c'est des recommandations importantes. Mais je pense qu'au retour, on va devoir s'y attaquer sur la question de la réglementation agile. C'est une question complexe, hein, sur tout ce qui est, Nathalie l'a mentionné, la gestion de la propriété intellectuelle par rapport aux algorithmes, aux apprentissages profonds, aux heuristiques qui ont été créés dans l'intelligence artificielle, va falloir devenir la nation qui a le plus d'expertise et de savoir-faire sur comment encadrer, ou pas qu'encadrer, mais stimuler la protection et la valorisation de la propriété intellectuelle dans ce secteur-là. Ça, c'est un point important. Le dernier, c'est peut-être, vous l'avez mentionné, la partie de l'accès aux données. Un des éléments de valorisation des entreprises, étonnamment, en intelligence artificielle, c'est pas seulement leur solution, mais la qualité et l'accès aux données auxquelles elles ont. Une entreprise qui a des banques de données d'images en particulière dans un secteur de la santé, des images d'infection, des images de colonoscopie, ou tout ça va avoir une richesse importante là pour arriver à développer les algorithmes qui seront les traitements médicaux de demain. Les données du domaine des transports permettront de mieux optimiser la logistique. Donc ça, c'est ce qui pourrait faire une immense différence pour le développement de ce secteur-là.
C'est l'actif en or, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le point essentiel. Malgré la crise actuelle, je vous laisse la parole à Nathalie, mais malgré la crise actuelle, les prévisions, elles restent quand même bonnes. La croissance économique de l'IA, elle monte en flèche. On évalue des gains de productivité de l'ordre de 0,8 à 1,4% par année à l'échelle mondiale d'ici 2065. Le Québec, il a tout intérêt à conserver, à accroître son statut. Vous le parliez tout à l'heure, Nathalie, d'écosystème, d'environnement harmonieux en IA parmi les plus dynamiques du globe. Ça laisse présager que le soutien financier va se prolonger à long terme de la part de nos deux paliers de gouvernement. Est-ce qu'on est capable finalement de mesurer toutes ces retombées économiques justifiant ces investissements majeurs, sachant que les données empiriques sur ces retombées, elles ne sont pas toutes encore disponibles, Nathalie ?
Ben, c'est une très bonne question et je pense qu'on est dans cet effet dynamique et la crise finalement, les contextes récents, c'est Luc, tu parlais des données, c'est un sujet évidemment qui me tient beaucoup à cœur, cet accès aux données, mais là on a vu que dans un contexte très particulier, il y a une collaboration, les données ont été partagées, on a eu accès à plus de données, donc c'est possible, donc on est en marche, je pense, dans ce sens-là et du coup, ben, évidemment, si on a accès aux données, si on est capable en fait, notre valeur est là et du coup le financement, le potentiel en fait de transformer justement en vraie valeur et richesse pour le pays va être mis en place. Donc moi j'y crois beaucoup, je pense que on est l'écosystème est dynamique, il se met en place. Évidemment comme tu dis Luc, c'est pas évident parce que on a retardé sur certains aspects, mais je pense qu'on a fait des avancées. On l'a vu, le Québec avec la Biobank par exemple était un des leaders et du coup on est ceux qui avons été leaders dans le partage de certaines données de santé autour du vaccin, certains aspects. Donc notre modèle évidemment va pouvoir se reproduire ou être adapté ailleurs. Donc c'est vraiment, enfin en tout cas je suis optimiste et je pense que clairement la crise a été un facteur qui a permis de faire tomber certaines barrières. Il faut juste faire attention évidemment parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a d'autres enjeux évidemment sociaux, éthiques qui doivent entourer développement.
On n'hésitera pas à se faire une idée parce que là c'est vraiment tout un sujet et vous avez totalement raison de mettre le doigt dessus. Ça reste un des pendants majeurs, mais en tout cas on l'a bien senti et je pense que les chiffres aussi sont là. Il y a un optimisme fort, mais il y a aussi une réalité qui est très porteuse. Merci à vous Nathalie Desmarcelis-Varin, merci Luc Sirois. Je rappelle Nathalie que vous êtes présidente directrice générale du CIRANO, le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations. Et vous préparez d'ailleurs avec le CIRANO plusieurs activités en lien avec la parution de cette nouvelle édition qui déjà fait beaucoup parler d'elle, votre rapport, le Québec économique 9, un rapport gratuit. On le précise là aussi, rédigé par une
quarantaine. Oui, téléchargez-le en ligne.
Téléchargez-le en ligne. Déjà, je crois qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont téléchargé. Je pense même que les chiffres ont augmenté.
On atteint 3000.
Ah, bravo.
Aujourd'hui.
Voilà. On vit ça en direct. On peut le télécharger en ligne. Et je crois que des tables rondes vont être organisées d'ailleurs en lien
tout
avec ce rapport. Hein. C'est ça, Nathalie?
Oui, tout à fait.
Et également en lien avec l'actualité de l'IA. Vous participez, Nathalie, je le précise, le 11 février prochain à la conférence HEC Forecast 2021 à l'occasion de présenter tous les travaux du CIRANO en collaboration avec le comité Covid-19 de l'Obvia et la Human Technology Foundation sur l'innovation responsable, la gouvernance des technologies en temps de crise. Ces sciences IA, évidemment, sera sur le coup. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci beaucoup. Merci, Luc.
Et quant à vous, Luc Sirois, nouvel innovateur en chef du Québec, président du Conseil de l'innovation. La grosse actu à venir, c'est le lancement des premières consultations pour le renouvellement de la SQRI, cette fameuse stratégie québécoise de recherche et d'innovation qui arrive à échéance en 2022. Si c'est pas déjà commencé, c'est imminent ces consultations, non, Luc ?
Oui, c'est imminent. Vous êtes dans les premiers qui en parlaient publiquement, mais en effet, on commence les travaux pour que tout le Québec puisse participer à la réflexion, à la création et à l'imagination de ce que pourra être la meilleure stratégie de recherche et d'innovation de l'univers.
Et y a, oh, ben c'est ça qu'on veut. Ah, wow. Il y a de la volonté et il y a de la perspective. Merci beaucoup, Luc. Et puis, je précise également que ce 28 janvier, vous participez au sommet des accélérateurs organisé par le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Alors, accélérons. Merci Luc. À la réalisation technique, Ntiché Doumbia et toute l'équipe de GTS, à la coordination plateau, Anne-Sophie Casper, à la direction éditoriale, Jonathan Chodjaï, et à la recherche, Valérie Fortier. Merci à notre partenaire, le gouvernement du Québec, pour le soutien actif à la réalisation logistique de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Philippe Regnault au micro. À quoi ça sert de financer l'IA au Québec? Ben pour vous, on l'espère, c'est désormais plus clair. Merci de votre attention.
C'est science. IA.